Des accords parfaits, une émission publique de France Musique, aujourd'hui autour de Così fan tutte de Mozart. De Così, aujourd'hui autour de la table de désaccord parfait, de votre droite à votre gauche, Peter Watland, directeur artistique d'Oiseau Lyre. Peter Watland, vous êtes venu, autant le dire tout de suite, parce que Così très récent et autour duquel il y a eu beaucoup de polémiques a obtenu un prix du disque, celui dirigé par Arnold Oestmann, que vous avez produit. Puis Philippe Solers, écrivain, Dominique Jameux de France Musique, Stéphane Goldet à mes côtés de France Musique, Jacques Bourgeois également de notre chaîne. Baptiste Marais, écrivain, auteur des papiers de Walter Jonas aux éditions Actes Sud, Jacques Merlet de France Musique, et enfin Rachel Yacard, que bien sûr nos auditeurs connaissent bien, mais Rachel Yacard, vous êtes l'une des protagonistes de ce dernier Così, c'est-à-dire que c'est vous qui chantez Fior di Ligi dans l'enregistrement d'Arnold Oestmann. Inutile de dire que nous n'allons pas, lors d'un seul désaccord parfait, épuiser le sujet Così fan tutte. Alors, c'est bien sûr l'un des opéras, l'une des œuvres qui a été les plus mal comprises de Mozart, et on peut dire que pendant longtemps, et aujourd'hui encore, on a dû un peu se partager entre une approche assez métaphysique de Così fan tutte, celle d'une sorte d'échangisme assez sublime, et une approche au contraire davantage bouffe, davantage fondée sur l'humour, la tendresse et quelquefois aussi le côté assez cynique des situations. Et nous allons voir que ce nouvel enregistrement, dirigé par Arnold Oestmann, a l'avantage, si l'on veut, de poser une troisième possibilité, c'est-à-dire qu'au-delà de cette opposition, il y a maintenant une volonté, comme on le fait souvent d'ailleurs, aussi bien sur les symphonies de Mozart, par exemple, de travailler avec des instruments anciens et sur un phrasé de l'époque, enfin toute une volonté de restitution historique. Arnoncourt l'a fait avec d'autres opéras de Mozart, et c'est maintenant Oestmann qui le fait avec Così. Alors je voudrais simplement vous donner le plan de cette émission, que devait d'ailleurs mener avec moi notre ami Jean-Pierre Derrien, Jean-Pierre Derrien qui a annulé au dernier moment sa participation à cette émission à cause d'un problème non résolu avec l'administration de Radio France. Je ne peux évidemment que le regretter. Donc le plan de cette émission, eh bien, nous allons tout d'abord, et c'est bien naturel, comparer quelques ouvertures. Ensuite, nous parlerons dans le premier acte de la scène 2 à la scène 5, qui est justement une scène où se mélangent le comique, le bouffon, la tristesse aussi. Puis nous évoquerons les deux personnages féminins de Fiordiligi et de Dorabella, en prenant chaque fois l'air par lequel elles se présentent, qui est un air chaque fois assez solennel, et ensuite au deuxième acte, l'air par lequel elles cèdent, qui est un air toujours beaucoup plus sensuel, et nous pourrons, je pense, de cette manière-là, évoquer le parcours de ces deux personnages féminins. Et puis après, je ne sais pas où nous en serons, peut-être aurons-nous terminé l'émission, nous aurons peut-être le temps d'entendre un final, ou même de parler des personnages masculins. Inutile de dire que c'est bien sûr une approche qui est personnelle, qui est très limitée, ainsi d'ailleurs que le choix des interprétations. J'ai choisi tout simplement trois interprétations. Ces trois interprétations, ce sont successivement, et par ordre chronologique, celles d'Herbert von Karajan, enregistrées en 1955 avec le Philharmonia Orchestra, version absolument éblouissante, considérée comme une des grandes références de cette œuvre, dans l'enregistrement de 55 ou de 54, enfin, suivant les références. Karajan dirigeait Elisabeth Schwarzkopf, Fior di Ligi, Nan Merriman, Dorabella, Leopold Simono, Ferrando, Rolando Panera et Guglielmo, Lisa Otto d'Espina et Sesto Bruscantini, Don Alfonso. Puis, un enregistrement très différent, bien que proche par la chronologie, c'est la réédition de l'enregistrement d'Aix-en-Provence, dirigé par Hans Rosbaud, une version live, donc, dans un style qui était le style aixois de l'époque, qui se voulait très différent. Et Hans Rosbaud, en 1957, dirigeait l'orchestre de la Société des concerts des conservatoires à Aix-en-Provence avec Teresa Stich-Randall, Fior di Ligi, Teresa Berganza, Dorabella, et Luigi Alva, Ferrando, Panerai aussi, Guglielmo, etc. Donc, deux enregistrements très différents, mais qui tous deux sont des années 50. Et enfin, l'enregistrement très récent, publié chez Oiseau Lyre, donc, dirigé par le chef d'orchestre Arnold Oestmann. Alors je vous propose tout de suite d'entendre l'ouverture de Cosi, telle que Herbert von Karajan l'a enregistrée avec le Philharmonia Orchestra en 1955.
C'était le troisième enregistrement que nous avions. Nous avions eu un enregistrement de Glyndebourne des années 35 par Busch, et nous avions eu un enregistrement par Carl Böhm qui venait tout de suite avant. Il y en a eu, il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, ça a été un de ceux qui a le plus marqué l'ouvrage. Et l'approche de Karajan par rapport à Böhm et Busch est délibérément légère. Je ne dis pas bouffe, je dis légère.
Oui, vous verrez tout à l'heure qu'elle n'est pas bouffe du tout dans
oui,
certains passages.
Absolument. Seulement, c'est un ouvrage qui a été méprisé pendant tout le XIXe siècle. On a trouvé le livret immoral. Et au XXe, on l'a trouvé stupide. Et je me souviens, lors des reprises, justement, d'Aix-en-Provence, je pense que Aix, dont nous allons entendre une version tout à l'heure, a été la première résurrection de l'ouvrage dans ce pays, en France. Et je me souviens encore d'opinions de mes confrères qui disaient « C'est dommage qu'une si belle musique ait été mise sur un livret aussi stupide. » Or, ce livret est loin d'être stupide. Depuis, on a beaucoup glosé autour. Et il est évident, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Damien, il peut y avoir une approche métaphysique et aussi une approche tragique. Car enfin, c'est celle, d'ailleurs, qui me frappe le plus.
Philippe Soler.
Oui, moi, ce qui me frappe le plus, en effet, c'est cette polémique alors incessante contre le livret de Così fan tutte. Et quels que soient les commentateurs en général, ils veulent à tout prix que Mozart transcende ce livret, aille plus loin que ce livret, s'échappe de ce livret, fasse sentir au-delà de ce livret quelque chose.
C'est quand même un livret d'appropriation.
C'est un livret admirable, bien entendu,
oui.
Donc il faut lire en italien, qu'il faut entendre en italien, dont il faut entendre toutes les répétitions, toutes les intentions secrètes, enfin on pourrait les détailler indéfiniment, je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure, mais alors moi ce qui me frappe le plus, c'est que c'est l'opéra de Mozart qui vient juste après Don Juan, et enfin avant La Flûte enchantée, et c'est tout simplement le Mozart le plus probablement musical. On veut toujours que Mozart soit tragique, soit métaphysique, soit transcendantal, etc. C'est, je crois, le moment le plus musical de Mozart, qui correspond à ce qu'Oka rappelle...
Tourner tout de même vers une forme vocale passée.
Oui.
Hein. C'est beaucoup plus que Don Juan et c'est que cela. Les notes, je veux dire, le bel canto.
Mais l'intention philosophique se développe, et je crois qu'elle se développe de plus en plus vers une musicalité pure.
Absolument.
Et je crois que c'est ce qu'Oka rappelle de l'année 1789 chez Mozart, c'est l'accalmie radieuse, c'est l'année alors du quintet avec clarinette, je crois, et qu'on entend très bien dans l'ouverture, c'est-à-dire que l'ouverture sera bien jouée dans la mesure où on entendra cette sarabande des bois, enfin qu'on entend admirablement, je crois, et Karajan la donne très bien, et on voit très bien l'intention purement musicale de cette ouverture. L'échangisme des voix, oui, c'est déjà sensible. Et alors, je crois que c'est un opéra qu'il faut prendre exactement dans son entier, contre le stupide 19e siècle et le métaphysique facile, le 20e. Oui, il faut le prendre maintenant, carrément.
Baptiste Marais. Le Kolb signale que le Così fan tutte a été joué en 1813 à Paris, sous le titre Le laboureur chinois. Et il ajoute, dans une version très arrangée. Le deuxième point, c'est simplement, je voulais marquer...
Surréaliste.
La différence, à mon avis...
C'est un plaisir à Solaire, votre laboureur.
Entre le traitement du livret, en ce qui est du récitatif, qui va souvent vers la comédie bouffe ou légère, et qui en tout cas suit le comique de situation, et les airs, et notamment les ensembles du premier acte, qui sont complètement décalés par rapport à cette situation et qui versent soit dans le métaphysique, soit dans le tragique, qui sont sur un autre plan. Et que c'est tout à fait intéressant de suivre cette espèce d'ambiguïté entre le traitement des personnages et des situations différents selon le récitatif et selon les airs.
Alors, 2 ans ou 3 ans après l'enregistrement de Karajan, donc, il y a cette représentation à Aix-en-Provence. Alors, je crois... Jacques Bourgeois, évidemment, vous étiez forcément à Aix-en-Provence cette année-là. Alors, avant qu'on entende tout simplement Rosbaud diriger la très jeune Berganza, Lastich Randall et d'autres.
C'est mentors, une superbe distribution.
Il faut que vous nous expliquiez à quoi est-ce qu'on s'attendait en 1957 à Aix, quand on a monté Cosi.
On s'attendait à voir un opéra de Mozart qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, bon, on s'attendait à entendre des chanteurs qu'on aimait. Berganza avait dû débuter l'année d'avant, je pense, dans Cherubino. Je pense Stich Randall, qui était une vedette assoluta d'Aix-en-Provence, et dont ce rôle était, à mon avis, un des meilleurs rôles, d'ailleurs. Simoneau a été le grand ténor mozartien de l'après-guerre, simplement, il n'a pas été remplacé. Et les autres interprètes étaient... Bon, ça a été une des plus belles distributions, certainement, qu'on a rassemblées.
Alors, je voudrais dire que là, il y a quand même un retard de la France
à la connaissance de Cosi, parce que la résurrection de Cosi fan tutte date du tournant du siècle, grosso modo, en Europe, et notamment grâce à Gustav Mahler, qui l'a dirigé à l'Opéra de Vienne, et c'est à ce moment-là qu'on s'est beaucoup étonné qu'il dirige un opéra au livret si immoral. Et également, il faut dire, quelques années après, juste 3-4 ans après, sauf erreur, par Richard Strauss, qui a également beaucoup dirigé et écrit d'ailleurs sur Cosi fan tutte.
Donc ce soir d'été 1957, les trois cours retentissaient au théâtre de l'Archevêché à Aix-en-Provence. C'était donc Rosbaud qui dirigeait les musiciens de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Thank you. L'ouverture de Cosy donc en 1957 à Aix-en-Provence, dirigée par Hans Rosbaud. Enregistrement live, bien sûr, enregistré dans des conditions techniques pas extraordinaires, mais réédité depuis, et on le verra certainement une version très, très importante de cette musique. Est-ce que, à votre avis, un chef d'orchestre, dès l'ouverture, peut manifester ses intentions ?
Sa philosophie, oui.
Et sa philosophie de l'heure. Alors, Philippe Solers.
On l'entend très clairement chez Karajan, à mon avis, et on entend comme une sorte d'hésitation chez Rosbaud entre le ton dramatique et le ton léger. Alors que Karajan semble surmonter la difficulté et être d'emblée dans un tempo qui soit vrai pour le mouvement lent, pour le mouvement rapide. C'est-à-dire qu'il y a eu une méditation, justement, sur la sarabande des voix.
Je ne sais pas si c'est une méditation. Stéphane, en tout cas, ça passe très, très nettement par le sens du tempo juste.
C'est le tempo, voilà.
C'est le tempo.
Voilà. De quel pied va-t-on danser cette affaire ?
Et j'ajoute, en étant d'accord avec les uns et les autres, que la version de Rosbaud, assez curieusement, romantise beaucoup ce cosy, avec une introduction extrêmement lente, beaucoup trop lente, car elle est marquée en dante, alors que là, on vient de l'entendre lento, à peu près, et une suite qui est un peu brutale, enfin, je trouve, qui est avec des accents très accusés, une sorte de véhémence. C'est un peu légèrement...
Ça n'a rien d'italien, en tout cas.
C'est le live, hein, il faut faire attention. Quand on entre dans un enregistrement live, il y a toujours un peu cette espèce de formidable, comment dire, réservoir de trac qu'on sent très fort et qu'on ne sent pas dans un enregistrement de studio. Là, comme on compare deux choses qui sont légèrement distinctes, c'est très difficile de faire.
Est-ce que l'ouverture de Cosy n'est pas l'une des plus redoutables, quand même, de Mozart, dans la mesure où, contrairement à d'autres, elle pose d'emblée l'ambiguïté du propos, et que le chef tout seul, finalement, doit tout de suite... surmonter la question fondamentale qui se pose à propos de Cosy.
Il y a une chose qui me frappe beaucoup, de toute façon.
C'est une ouverture
que vous pouvez mettre sur des mots. Cosy fan tout. Bon, voilà.
Ah oui, il y a un signe tout de suite, il y a une devise.
Ça, c'est très fort. Et puis c'est
enfin,
c'est
y a une action même.
C'est une ouverture qui, comme l'opéra lui-même, à mon avis, ne va nulle part. C'est-à-dire qu'il doit se faire sentir un tourbillon, une giration.
On a parlé d'ailleurs de
l'opéra qui ne va nulle part.
Bulle qui éclate.
Il y a un enchaînement immédiat avec l'opéra. C'est ça, parce que là, à chaque fois, on a fait la coupure. Enfin, on fait une coupure qui est artificielle. Elle ne peut se comprendre que parce qu'il suit. Je crois que ce n'est pas une ouverture pour être une ouverture.
Non.
Pour faire joli devant le rideau.
Et de toute façon, cette première scène est gaie, n'est-ce pas ?
Très gaie.
Bon, et ça, chez Rosbaud, ça n'y est pas complet.
Non, écoutez,
c'était
quelle est la première scène ? Nous allons vers un pari. Giocam. L'italien dit le jeu. Hein, voilà. Nous allons vers un pari.
Une scène de café. Enfin.
C'est de ce que, il y a le pari de Cosy, on devrait méditer sur le pari de Cosy comme sur le pari de Pascal. Hein, oui.
Alors, c'est ce que j'aime beaucoup chez Karajan.
Philippe
c'est que
Solers,
il y a un ton qui est...
Il y a un pari de Cosy.
Philippe Solers, quel est le pari de Cosy ?
Le pari de Cosy, c'est qu'on peut, en une journée, faire dire aux gens, avec la même sincérité, le contraire de ce qu'ils avaient dit le matin. Alors, vous savez, quand les Fiordiligi et Dorabella parlent de leurs anciens amants, ils sont partis le matin. En quelques heures, ce sont des adieux déchirants, très beaux, magnifiques. Et en quelques heures, c'est exactement la même chose pour deux autres. Ce qui veut dire le règne de la musique absolue. C'est-à-dire qu'on va... en faisant chanter les gens, leur faire dire exactement le contraire en quelques minutes, hein, dans le temps de la représentation. C'est ça le pari de Cosy, c'est la toute-puissance de la musique qui déclenche les sentiments, il suffit de les chanter.
Mais c'est la toute-puissance du désir.
Voilà. Donc ça, c'est un pari énorme, et c'est pour ça que ça a été taxé d'immoralité ou de stupidité, de la peur contre ça. C'est l'opéra le plus audacieux de Mozart, c'est celui, à mon avis, où est déposé le fond de sa philosophie fondamentale.
Alors, le chef d'orchestre doit d'emblée quand même prendre position par rapport à ce pari.
Je crois
que c'est très difficile.
Sinon, ça se sent.
Et oui, ça se sent. Alors, voyons Arnold Desmann avec l'orchestre du théâtre de Drottningholm, enregistrement sur compact disque d'ailleurs. Thank you.
De Cosi, dirigé par Arnold Desman et l'orchestre du théâtre de Drottningholm. Alors finalement, voilà qui ne ressemble à rien de connu, comme on dit.
Comment peut-on être en persan?
Moi, je trouve ça très bien que vous riez. Parce que ce qui prouve d'abord, je crois que vous avez une méconnaissance complète de l'opéra bouffe. Et je crois que quand même, quand on démarre un opéra bouffe, on ne peut pas en faire en effet cette chose tragique que vous voudriez que ce soit. Les choses à annoncer finalement sont annoncées très très bien parce qu'il y a, je sais pas au début, je sais pas si vous avez entendu ce qui se passe au début.
Vous avez entendu l'italien de Così fan tutte dans le
hein?
Est-ce que vous entendez l'italien de Così fan tutte? Ça s'articule.
Oui, oui,
les instruments doivent l'articuler. Ah non, c'est ta 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 ta.
Oui.
C'est la charge de la brigade légère ou comme dirait l'autre, tout est en fer sauf les cuirasses.
Vous avez beaucoup d'esprit. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Je trouve ça très intéressant, bien au contraire, parce que je trouve que pour une fois, là, les mouvements sont respectés. En entier. Moi, je trouve que ça va, en effet, ça va suffisamment vite pour me plaire.
Trop vite,
il ne s'agit pas de la cavalerie, du cavalerie de charge légère. Pour une fois, j'entends finalement les instruments avant.
Pas n'importe quoi.
Justement pas.
Les instruments avant,
justement pas. Écoutez comme Karajan.
Les instruments avant,
ils ne sont pas méditatifs. Il faut
ils ont une très très grande.
Ils n'ont qu'une intériorité là, oui, justement.
L'intériorité.
Les instruments n'ont pas l'intériorité
là. Ça, c'est une autre affaire, l'intériorité des instruments.
Ah ben non, c'est.
Je crois que la musique parle
délibérément bouffe de toute façon.
Oui, ça parle de soi-même cette musique de Mozart.
C'est délibérément. Oui, mais
vous avez parlé de musicalité.
Je dirais qu'elle est très bouffeuse de musique, mais qu'elle n'est pas bouffe.
Ça va peut-être davantage.
Mais elle n'est pas bouffante finalement, comme celle qu'on a entendue auparavant.
Ça va peut-être un peu en surface.
Bien qu'il y ait pas mal de culottes bouffantes dans cette affaire.
C'est tout de même très joli.
Non, je ne sais pas.
C'est bien agréable que ça aille parfois en surface, finalement, parce qu'il y a des surfaces
ça, c'est
même
autre
qui sont aussi une autre chose.
Je ne sais pas, vous ne vous sentez pas agressé par cet enregistrement?
Oui.
Non, j'ai l'impression que le public est d'accord avec moi. Mais écoutez...
Oh, écoutez, on n'est pas ici au cirque, Stéphane Goldé.
Attendez.
Alors, on n'est pas ici au cirque.
Rachel Yacard. C'est évidemment un contresens.
En tant qu'interprète, de toute façon, quand on joue cet ouvrage-là, on est quand même un peu agressé en tant que femme. Parce qu'on a l'impression... Oui. Ça, je voulais dire.
Délicieusement agressé.
Oui, bon, pas toujours. On a un petit peu l'impression, même beaucoup l'impression,
qu'est-ce
terriblement fichu de nous, c'est moqué de nous.
Mais c'est pas vrai.
Attendez.
Nous entrons au cœur du sujet.
Avec génie, parce que moi, je trouve que J'ai chanté cet ouvrage-là avec énormément de joie, mais souvent, en scène, j'étais entre deux chaises.
Oui, oui.
Ou alors, je devais jouer le jeu de l'opéra bouffe, ou alors, c'était le drame, et j'étais complètement à côté de mes pompes. Excusez-moi.
Tout à fait. Non, mais vous êtes au cœur du sujet, à mon avis. Continuez, voilà. Alors, continuez.
En définitive, qu'on soit agressé... au départ, par l'ouverture de Huysmans.
Ah, je crois que ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'a dit. On l'a dit sur le plan sonore, pas sur le plan des sentiments.
Alors, excusez-moi. Alors là,
l'agression est sonore, c'est-à-dire que je crois que c'est ce qu'on voulait dire.
Parce que moi, ces mouvements-là me vont. En essayant d'oublier peut-être un petit peu toutes les versions classiques qui me plaisent aussi. Je ne suis pas de celles qui rejettent automatiquement tout ce qui a été fait quand il y a quelque chose de nouveau. Mais du point de vue mouvement, moi je suis comme M. Merlet, j'accepte.